MCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de se connaître soi-même. Te connais-tu réellement ? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Annabelle et notre invitée de la semaine, pasteur Modestine Castanou. Bonjour, bonjour, comment ça va ?
Ça va très bien, bonjour Yveline, contente d'être à nouveau sur ce plateau.
Eh bien, oui. On se retrouve, on ne se passe pas de vous cette semaine, on vous garde.
Ah, ça me flatte ça.
On a une belle émission hier, on a parlé de la famille, mais principalement des familles recomposées. Vous avez fait une belle rubrique famille. Et aujourd'hui, eh bien, on vous met au travail pour une rubrique couple et relations. Vous aurez fait toutes les rubriques à la fin de la semaine.
Hein. Décidément. Aujourd'hui, en tout cas pour la bonne cause.
Hein. Pour la bonne cause, ouais. Exactement. Aujourd'hui, vous allez parler finalement aux célibataires dans cette rubrique-là. Être soi-même une bonne personne pour rencontrer la bonne personne. On va travailler sur nous-mêmes aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
C'est bien, il faut
tout absolument.
Ouais. C'est important. Et aujourd'hui, on va voir l'importance de se connaître soi-même, comprendre nos réactions, comprendre qui on est réellement pour aussi finalement mieux comprendre les autres et puis mieux travailler justement sur nous-mêmes pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes, comme on aime le dire. Et Annabelle, on va commencer avec toi dans la pensée du jour.
Te connais-tu réellement ? C'est quand même une grande question. Et il y en a certains, vous allez plonger dans des heures, des jours, des mois de réflexion. Mais qui suis-je ? Mais ceci dit, c'est une question très importante à pouvoir se poser. Et c'est surtout important d'avoir des réponses et de ne pas rester dans cette perpétuelle quête d'identité. Qui suis-je réellement ? Est-ce que je me connais ? C'est quoi ma personnalité ? Quelle est mon identité ? Etc. Alors j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques pistes, en tout cas un passage de référence qui, je crois, va vous parler et va vous aider pour réellement vous connaître. Alors, on va lire ensemble dans Matthieu 16, à partir du verset 13. « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Alors là, ça devient intéressant. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a beaucoup de réponses pour un seul homme. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors pourquoi est-ce que je voulais qu'on lise ce passage ? C'est parce qu'on voit une découverte d'identité. Non pas Jésus qui découvre son identité, parce que Jésus connaît parfaitement son identité. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre, je le dis au passage entre parenthèses, c'est pour ça que Jésus peut se permettre de dire que dit-on de moi ? Parce que Jésus n'avait pas de problème d'identité. Mmh. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est une question qui est dangereuse à poser. Parce que vous voyez que dans ce passage, eh bien, il y a un peu de tout. Hein. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un des prophètes. Dans le doute, on ne sait pas lequel. Donc en fait, tout le monde peut avoir son avis sur votre identité. Et puis, ce sont des avis qui sont faux. Parce que Jésus n'était aucune de ces personnes, aucun de ces prophètes. Et il le savait. Donc ça ne l'a pas déstabilisé. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête plus sur Pierre. Pierre qui est là en train de penser qu'il répond à un quiz et qu'il a gagné le Grand Prix. J'ai eu la bonne réponse. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le parcours de Pierre, c'est que le moment où il a la révélation de qui est réellement Jésus, Jésus le Fils de Dieu, c'est à ce moment-là que lui-même a la révélation directement de Jésus, de qui lui-même est. Il lui dit, Pierre, toi, tu es Pierre et tu es celui sur qui je bâtirai mon église. Et d'un seul coup, Pierre sait qui il est en Christ. Il sait c'est quoi le projet que Dieu a pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord eu la révélation de Jésus. Et ça, c'est un premier point important. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce passage, c'est que lorsque Pierre dit à sa grande révélation, et qu'il pense qu'il est génial peut-être à ce moment-là, Jésus lui dit « c'est pas une idée humaine, c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Et c'est la source de notre identité. Et nous avons besoin de demander à notre Père qui est dans les cieux qui nous sommes. C'est lui, notre identité n'est pas une idée humaine. » C'est pas quelqu'un qui décide que vous êtes telle ou telle personne, qui décide que vous allez aimer telle chose, que vous allez avoir tel caractère, telle personnalité. C'est votre Père céleste. Donc ne cherchons pas à savoir ce que les autres pensent de nous, mais en tout cas ne cherchons pas à ce que les autres nous définissent et nous donnent une identité. Ne cherchons pas non plus à réfléchir notre identité et à la choisir comme si c'était un truc qu'on peut acheter. Mais c'est une idée, ce n'est pas une idée humaine, c'est notre Père céleste qui est dans les cieux, qui va nous la révéler. Et alors que nous avons nous-mêmes la révélation de Jésus et que nous le laissons être le Seigneur de notre vie, il a aussi cette place de pouvoir nous dire « Voilà, toi tu es Pierre et toi tu es Annabelle et voilà ce que je veux faire de toi.
» Merci Annabelle, sur qui repose cette pensée du jour aujourd'hui? C'est ton identité pour cette journée en tout cas.
Non, Yvelyne, je refuse.
Juste là, bon, pour ces quelques minutes, alors c'est bon. C'est hyper important, merci Annabelle pour ta pensée. Et ça aide en fait de comprendre comment on peut savoir qui on est. Moi je me souviens très bien ce jour, j'étais adolescente, mais quand même proche de l'âge adulte. Et je me souviens m'être arrêtée et puis m'être dit, mais c'est qui la vraie Yvelyne en fait? J'étais quelqu'un d'extrêmement influençable, qui cherchait tellement à être aimée des autres et surtout pas rejetée, que je pouvais me comporter d'une certaine façon avec un groupe, ensuite avec un autre groupe comme ça, et finalement extrêmement caméléon, au point où tu te perds un petit peu dans tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont plus d'identité parce que justement, ils se sont perdus pour se faire un peu à tous et puis être accepté de tout le monde, être aimé de tout le monde. Alors que oui, Dieu nous a donné une réelle identité, Dieu nous a créés et Dieu nous connaît, il nous connaît tellement bien. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, le genre de truc que je ne saurais jamais de moi-même, mais lui, il le sait. Il a pris le temps de nous tisser dans le ventre de notre mère, il a pris le temps de faire de nous celle ou celui qu'on est aujourd'hui parce qu'il avait un plan. Bon, il nous a créés de cette façon-là pour qu'on puisse accomplir ce plan-là. Et quand on est sans arrêt en train de s'égarer, de se chercher, d'essayer d'être un autre genre de personne ou de rentrer dans un groupe différent et de s'adapter, en fait, on se perd complètement et on risque de passer même à côté de ce que Dieu a prévu pour nous.
Exactement, parce qu'en fait, le fait de ne pas connaître son identité va vraiment, en tout cas, pour un homme ou une femme, justement, le mot perdre, tu le dis, on sera perdu, on risque de vivre une vie par procuration, vivre la vie de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'on ne connaît pas son identité. Et j'ai bien aimé ce passage de où Jésus pose la question. Il faisait des fois exprès de poser la question pour voir un peu comment ses disciples qui pensaient le connaître pouvaient réagir. Et c'est très profond, parce qu'en fait, Pierre, lorsqu'il dit qui est le Christ, et c'est là que le Christ, tu le dis, va révéler qui il est réellement. C'est comme si, en fait, Pierre, il ne connaissait pas. Il se disait que je m'appelle Simon, c'est bien. C'est très bien. Et puis, moi, je me laisse pas faire. J'aime bien comprendre les choses. Voilà. Et tout le monde connaît ce Simon sanguin, comme ça, très, très dominant et tout, qui est tête brûlée. Mais en même temps, Simon ne connaissait pas son identité. Quoi. Et le jour où il a reçu la révélation de qui est le Christ, c'est ce jour-là qu'il reçoit sa propre identité. C'est comme si le point de départ, vraiment, ça va être la connexion avec le Seigneur. Connaître le Seigneur, connaître Dieu, c'est réconcilier avec le Seigneur, revenir à la source de notre base. Pourquoi ? Simplement parce que c'est lui, c'est Dieu le Père, qui nous a créés à son image, qui connaît avant la fondation du monde ce pourquoi il nous a créés, quelle est notre mission sur la terre. C'est lui seul qui est capable de nous révéler qui nous sommes. Ce ne sont pas les bonnes copines, ce ne sont pas les parents. Ils ont beau nous aimer, s'investir dans notre vie, mais c'est vraiment le Seigneur. Et quelqu'un qui cherche son identité, sûrement l'encourager à revenir à Christ. Seigneur, je veux te connaître. Amen. Et quand on cherche à le connaître, alors lui va nous révéler qui nous sommes. Exact. Voilà, c'est très bien, c'est profond ça.
Amen, amen. Ouais. On édifie Annabelle.
Ah, je croyais que tu allais le dire le verset.
Tu as envie de rebondir sur le verset, je le sens. Le verset du jour est dans Jérémie 1 au verset 5. C'est un verset qu'on connaît, mais je vous invite à la lumière de ce qui a été partagé encore au début de cette émission, que vous puissiez vraiment être attentif à ce qu'il dit. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Alors là, c'est très spécifique sur Jérémie, mais on a tous été conçus par Dieu finalement.
Oui, et c'est que ça commence avant que quiconque sur cette terre nous dise quoi que ce soit. Et c'est difficile, en tout cas je trouve ça difficile, de parler de se connaître sans parler aussi de notre éducation, parce qu'on a eu des vis-à-vis dès notre plus tendre enfance, des bons ou des moins bons vis-à-vis, et quelquefois de ne pas en avoir eu aussi, c'est terrible. Et du coup, on peut se construire à travers le regard, à travers aussi les attentes des autres personnes. Et ce n'est pas forcément des mauvaises attentes, mais ce ne sont pas des attentes qui sont forcément conformes à ce que Dieu avait décidé à la base. Et si jamais on nous retourne à la source en disant, mais Seigneur, toi t'as dit, Jérémie, tu l'avais consacré prophète, mais moi, c'est quoi le projet en fait? Parce que peut-être que dans une famille, de père en fils et de génération en génération, on reprend l'entreprise familiale. C'est quelque chose, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que depuis le ventre de ma mère, j'ai été consacrée pour reprendre l'entreprise familiale? Et c'est des choses qui... C'est pas mauvais de reprendre une entreprise familiale, mais c'est peut-être pas le plan parfait de Dieu, et c'est peut-être pas le plan qui est rattaché à mon identité. Et si je ne m'identifie que à cette identité humaine, je suis fils d'eux ou fille d'eux, ça va être extrêmement, extrêmement restreint, et quelquefois ça va être complètement opposé, parce que je crois que pour vraiment apprendre à se connaître, il faut aussi faire le deuil, quelquefois, de certains idéaux qu'on nous a imposés ou que nous-mêmes, on s'est imposés. On s'est dit, être une bonne personne, c'est être ça. Être une personne qui réussit, c'est être ça. Et du coup, on s'est comme imposé certains standards qui ne nous correspondent pas du tout. Et c'est pour ça que, quelquefois, on a des problèmes de caractère, parce qu'on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. On a des comportements qui ne correspondent pas à qui nous sommes, et on est tout le temps en train de on est tout le temps dans une zone où on se force, où on n'est pas nous-mêmes, et puis on se fatigue, et tous les soirs on rentre, on est épuisé, et on se dit mais c'est pas possible de vivre une vie comme ça. Et tout commence à cause de notre identité, c'est parce que de mon identité va découler tous mes comportements, mais quand je fais l'inverse, en fait je m'épuise.
C'est ça.
Exactement, ouais. C'est exactement ça, c'est pour ça que l'épuisement, ça peut vraiment être un signe de dire que peut-être que je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire, en fait. Parce qu'on sent qu'il y a l'insatisfaction, on est épuisé, on est perdu, voilà. Et ça peut nous révéler qu'effectivement, est-ce que ce que je fais, c'est exactement ce que je devais faire? À quoi j'ai été appelée, voilà. Oui. L'histoire de l'identité, ça revient, mais à tout moment dans la vie, en fait. Ce n'est pas juste quand on est petit, parce que quand on est enfant, on se cherche, on ne sait pas, on fait comme les autres copines et compagnie. Et une fois en grandissant, on veut commencer à travailler, mais on n'est pas satisfait. Il y a comme, et ça, c'est un signe vraiment que non, Seigneur, je veux connaître plus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai été, moi, appelée à résoudre ces problèmes-là que je suis en train de résoudre? Et ainsi de suite, voilà. Ça peut être un questionnement, se remettre en question, en fait.
C'est ça, c'est qu'il y a une frustration à un moment donné qui peut grandir. On est frustré parce qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose. On ne se sent pas à notre place. On ne se sent pas. On ne se connaît pas nous-mêmes. On est tellement, comme tu le dis, en train de forcer et dans une espèce de lutte aussi pour être quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment donné, il faut être capable aussi d'assumer, voici la personne que je suis. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas et qu'on ne s'améliore pas. Mais il y a un moment donné, il faut faire ce constat. Je suis une personne comme ça. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Moi, c'est mes compétences, mes forces, mes talents, c'est ça. Et voici la zone dans laquelle je pense que vraiment Dieu m'a appelée parce qu'il m'a équipée pour ces choses-là. Maintenant, on découvre aussi des traits de caractère, on découvre des choses qui sont un petit peu moins belles. Et là, on peut aussi dire, voici ce que je suis et voici ce que j'aimerais devenir.
Voilà.
Et voilà, avec le Seigneur, on change. Mais je crois que c'est vraiment important. À un moment donné, de pouvoir, et là, peut-être cette émission est l'occasion pour vous de vous arrêter et de faire ce constat de qui vous êtes réellement et de qu'est-ce que Dieu a mis en vous, et puis d'assumer la personne que vous êtes et de ne plus essayer d'être quelqu'un d'autre.
Ah, je peux dire, oui. Je peux donner juste une image.
Ben oui, c'est Pasteur Maud.
Tu vas voir, en plus, oh ça valait la peine.
Oh là là. Bon, allez.
J'ai plus envie de la dire.
Oh non, si, vas-y, non, mais tu peux.
C'est
vas-y.
Vraiment... C'est nul. Mais si t'es une tondeuse et que tu te prends pour une voiture, bah en fait, tu vas être...
Non mais c'est vrai, tu vas faire des dégâts quoi, tu es une tondeuse et tu dois voilà. tondre le gazon.
Tu te fatigues et quand tu comprends ouais. que tu es une tondeuse, bah tu vas être heureux quand tu vas tondre. Ouais.
Non, c'est tondeuse,
je vous laisse la parole.
Il y a pas de souci, il y a pas de souci.
Génial d'avoir pris une minute de Pasteur Point pour ça. Mais je suis sûre que ça parle à quelqu'un, Annabelle, parce que tes illustrations parlent toujours. Merci oui. Annabelle. Allez, Pasteur Maud, on va enchaîner.
On enchaîne directement,
on va parler aux célibataires dans la rubrique Couple et relations.
Eh oui, nous voici, nous voilà. On va parler des couples et relations. On a parlé de l'identité, mais toujours dans le couple et relations, lorsqu'il s'agit de faire un choix de vie, choisir un conjoint, chacun de nous a sa méthode. Il y a des personnes qui vont, par exemple, dresser une liste, comme ça, des critères qui doivent absolument, c'est-à-dire que celui qui viendra devant moi devra répondre absolument à tous ces critères-là. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Annabelle, ou...
Moi, non. Je l'ai pas fait.
Moi, j'ai fait un peu, mais finalement, j'ai fini par l'abandonner, en tout cas. Voilà, j'avais mes critères, je voulais qu'ils soient comme ça, et qu'ils... Bon, voilà, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas me dévoiler ici, en tout cas. Alors, d'autres, ils vont dire, lorsque je le verrai ou je la verrai, si mon cœur ne bat pas la chamade, ce n'est pas la peine, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Et d'autres diront, si je n'entends pas Dieu mais dire audiblement que mon fils, c'est ton bien-aimé qui est devant toi, je ne bougerai pas. Voilà, chacun sa méthode, comme ça, le choix. Mais quelle que soit la méthode utilisée, pour rencontrer la bonne personne, une chose est certaine et qui reste humiliable, mais vraiment humiliable. Et l'apôtre Paul nous le dit dans sa lettre adressée à l'église de Galates, Galates chapitre 4, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Alors, comment je le comprends, moi? Cela sous-entend que dans le cas du choix du conjoint, il n'y a pas de hasard. Pour rencontrer la bonne personne, il faut décider soi-même d'être une bonne personne. Personne. Et oui, si on sait qu'on n'est pas au point, pourquoi vouloir rencontrer la bonne personne? Et cela nous pousse donc à considérer notre premier point de réflexion là dans cette rubrique. C'est qu'il faut absolument, donc, pour trouver la bonne personne, je vous donne ici deux clés majeures. La première clé, il faut passer par un processus de préparation. Il faut se préparer. Il faut se préparer. La préparation n'est pas que physique. Quand on parle de préparation, on voit déjà, oh là, le jour de mon mariage, j'aimerais être comme ci, comme ça, la belle robe. La préparation doit commencer d'abord par une préparation mentale. Un changement de manière de penser. Un changement de manière de réfléchir. Changer son système de pensée. Oui, pendant longtemps, pendant 18 ans, 20 ans, 21 ans, tu étais célibataire. Maintenant, tu te prépares à te marier. Il faut vraiment changer ses habitudes. Voilà, la vie à deux. Moi, je disais tantôt, aux célibataires, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Il faut grandir un peu dans sa manière de... Parce qu'on va vivre avec quelqu'un d'autre qui a une autre éducation, qui a ses habitudes aussi. Donc, il va falloir apprendre à composer avec tout cela. Donc, quelque part, il faut vraiment prendre de la hauteur et considérer l'autre et se préparer à pouvoir vivre avec une autre personne différente. Même si je suis amoureuse de cette personne, mais elle reste quand même une personne différente. N'offusque par le sexe, c'est un homme. Donc, on est différent, on n'est pas pareil. Hein. La femme a son univers, l'homme a son univers, on est différent. Il faut se préparer à cela. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les jeunes filles vont rentrer dans le mariage et vont dire, mais non, ce n'est pas comme ça que je pensais le mariage. Ce n'est pas comme ça. Comment ça se fait qu'il rentre à la maison, il laisse ses chaussures devant la porte, il enlève ses chaussettes. Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Ben oui, il est différent de toi. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Donc, changer la mentalité, changer de manière de penser est quand même quelque chose de très important. Il y a également la préparation physique. On va aller à la salle un peu quand même. C'est faire belle.
Se tonifier
un peu quand même. Estelle nous a montré l'exemple. C'est impressionnant quand même.
Tout ce qu'elle a fait.
Tout ce qu'elle a fait. pour gagner le cœur d'un roi. Mm-hmm. Hein, c'est pas petit. Hein. Mm-hmm. En tout cas, on peut s'en inspirer, mais ça dépend. On va pas non plus aussi
se changer
complètement. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a cette préparation qui existe. Et la troisième préparation, qui n'est pas la moindre, hein, qu'on a tendance à oublier, à négliger, c'est la préparation au niveau de l'âme. Mm-hmm. Ah oui.
La plus importante.
La plus importante, mm-hmm. mais c'est la moins travaillée souvent.
C'est vrai.
Voilà, mm-hmm. on ne se rend pas compte. Pourquoi ? Ben, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Annabelle, c'est que on ne se connaît pas soi-même, en fait. Voilà. Souvent, notre âme peut nous jouer des tours parce qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Mais il faut la prendre en considération parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on se marie, en fin de compte, on se marie pas juste avec le physique d'un homme ou d'une femme, hein, entre guillemets, ça dépend hein, si on est un homme. On se marie avec l'âme de la personne. Mm-hmm. L'âme, c'est la partie qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas tendance à considérer souvent, mais pourtant, c'est avec cette partie réellement qu'on va se marier, avec l'âme de la personne. Dans l'âme, il y a toutes ses expériences passées, son éducation, tout le bagage, entre guillemets, intellectuel que la personne a reçu, sa manière de se comporter, le caractère que cette personne s'est forgé. On va se marier avec l'âme de la personne. C'est avec l'âme qu'on va vivre au quotidien. Mm-hmm. Ses réactions, ses bouderies. on en a parlé d'un moment, oui. C'est boudri, hein. Ça m'énerve de se comporter. J'aime si, j'aime pas ça. Ouais. Voilà. Et surtout aussi, ce qu'on a pu avoir comme challenge, c'est manque, le sentiment de rejet, mm-hmm. la mauvaise estime de soi. Tout ça est enfoui dans l'âme. Mm-hmm. Et donc, du jour au lendemain, on va se retrouver avec une personne. Et on va se rendre compte, mince, peut-être cette personne pourrait m'abandonner comme mes parents m'ont abandonné. Et tous les matins, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu promets de rester avec moi tout le temps, tous les jours? Et voilà comment une âme peut être présente dans une relation, s'imposer dans une relation, alors qu'au départ, on a aimé un beau jeune homme, on ne pensait pas dealer avec son âme, en fait. Donc, l'âme est une partie très importante. La préparation au niveau de l'âme ne doit pas être négligée. Et je disais tantôt que l'âme, c'est comme le cadeau surprise qui s'invite, en fait, dans votre foyer lorsque vous vous mariez. On a ouvert tous les cadeaux des invités. Et quand on est deux face à face dans la maison, on commence à ouvrir les cadeaux de l'âme. Mm-hmm. On commence à découvrir l'âme de l'autre. Voilà, on rentre en intimité. Intimité en anglais, vous qui parlez un peu anglais ici. Intimacy, c'est ça ? Je ne parle pas. Voilà.
Intimacy,
ça veut dire que viens regarder à l'intérieur de moi. Donc, je t'ouvre là mon âme, viens découvrir si ça te plaît. Mmh. Alors, quand on revient au niveau de l'âme, quand tout va bien, mais c'est génial, quand l'âme est vraiment belle, tout va bien, enfin, belle, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on n'a plus le temps de faire un nettoyage au niveau de l'âme, là, on va donner un beau cadeau à l'autre, en fait. Mmh. L'autre va apprécier ce qu'il découvre. Mmh. Mais si ce travail intérieur n'a pas été fait, alors là, on peut avoir des surprises, ouais. Des surprises qui peuvent nous jouer un tour parce qu'on peut épouser la bonne personne et quand même faire en sorte que par notre manière d'être, parce qu'on est foncièrement, mais emmener ce couple à la dérive en fait. Ouais. Voilà, détruire soi-même son mariage parce qu'on n'a pas su être la personne qu'il fallait qu'on soit, en fait, pour tenir ce foyer, pour tenir ce mariage. Donc, ce n'est pas négligeable. Mm-hmm. L'âme, bien-aimée, je vous invite vraiment à faire ce check-up intérieur. Je dois travailler sur mon âme.
Tellement.
Je dois absolument faire ce nettoyage-là. Mm-hmm. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un disait, un œuf sain plus un œuf pourri donne une omelette pourrie. En fait, on n'a pas envie de manger, en tout cas. Voilà, donc...
Mais pas mal, on cette a image.
Ouais, voilà.
Ça fait t'apprends, quand même... Exactement. Donc, il faut vraiment travailler en soi, travailler à l'intérieur de soi. Et deuxième point, connaître la définition du mariage, connaître le but du mariage. Pourquoi le mariage ? Qui a créé le mariage ? Donc, moi, l'image que j'avais du mariage avant de me marier, excusez-moi, je me confesse devant vous, c'est que quand je pensais au mariage, je pensais à ma belle robe. Je pensais à un château qu'on pouvait louer là le jour du mariage. Je pensais voilà, à mon prince charmant qui allait venir sur un cheval. Voilà, tout ça, c'était mes images, moi, la représentation que j'avais du mariage. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact tout ça. Ce sont les images que nous vendent un peu les signes, les films d'Hollywood. Le mariage, avant tout, c'est Dieu qui est le créateur du mariage. Le mariage a un but. Lorsque Dieu a observé Adam qui travaillait seul, le Seigneur va faire ce constat, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, le mariage va t'aider, toi et ton conjoint, à accomplir ensemble un but, mm-hmm. une mission sur la terre, à avoir une destinée commune. On est plus fort quand on est deux. Seul, ce n'est pas évident. L'union fait la force. C'est-à-dire qu'à deux, vous serez plus fort. C'est pour ça, lorsque Ève est entrée dans la vie d'Adam, Adam s'est senti fort. Le Seigneur l'a dit, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça dans ta vie, qui te rend plus fort, qui te rend plus vaillant, plus courageux. Et ensemble, vous allez accomplir une mission sur la terre. Et je disais tantôt qu'en fait, en réalité, le mariage, chaque couple a une mission en fait, à accomplir sur la terre. Chaque couple a un appel. Et quand vous êtes deux, c'est, je ne dirais pas ta moitié, c'est quand même ton partenaire de vie, ton vis-à-vis. Et ensemble, vous allez accomplir les choses importantes sur la terre. Alors, le verset clé que j'aimerais vous laisser là aujourd'hui, Ecclésiaste 7, verset 8. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En fait, avant de se marier, pensez quand même à la fin.
Oui.
Est-ce que nous allons arriver à destination jusqu'au bout? Et en ce moment-là, lorsque tu vas voir un peu le parcours que vous pourrez avoir, tu dis, oh là là, est-ce que je suis prête? Alors, je vais me préparer. Je vais retrousser mes manches. Je vais faire en sorte que je sois une bénédiction pour ce partenaire de vie que je vais rencontrer.
Ouais.
Et oui, moi, je vais prendre la décision d'apporter des choses de qualité dans sa vie.
Ouais.
Et non pas juste d'entrer dans la relation pour pouvoir aspirer à tirer des choses de lui ou recevoir de lui. Je me positionne comme étant une source de bénédiction pour lui. Alors là, je pourrais, de mon côté en tout cas, donner le meilleur, donner tout pour que nous puissions arriver à destination. C'est une bonne décision de vie qu'il faut prendre,
vraiment,
je trouve.
Hein. Vraiment.
Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah non, ben c'est sûr, c'est excellent.
Ouais.
C'est excellent. Et j'aime vraiment tout ce que vous avez partagé dans cette rubrique et de savoir que c'est ça. Quand vous dites « je suis une bénédiction pour l'autre », ça, c'est tellement vrai et tellement important. Et en fait, souvent, on rentre dans le mariage en se disant « l'autre sera une bénédiction pour moi ». Et en fait, on le prend à l'envers. Et bien sûr, il y aura un petit décalage. Même si les deux ont fait ce travail, même si les deux sont tellement bien disposés, il y en a toujours un qui est peut-être un peu plus mature que l'autre, qui a peut-être plus de facilité à gérer son caractère que l'autre. Mais c'est génial. Plus celui qui est le plus mature va avoir la capacité d'aider l'autre, justement, et puis de l'amener aussi un petit peu plus haut, et puis de l'élever à un autre niveau, puis de l'aider à gérer ses failles. Et c'est vraiment un travail d'équipe, en fait, qui va pouvoir se faire. Parfois, j'ai l'impression que celui qui est plus avancé va avoir tendance à dire, à reprocher à l'autre, t'aurais pu te préparer mieux pour le mariage. T'as pas fait tous les cours, t'as pas fait tous les exercices, t'as pas écouté la rubrique de Pasteur Maud pour mettre en pratique. Mais s'il y en a un qui est un petit peu plus avancé, tant mieux qu'il puisse amener l'autre avec lui.
Et aussi, je voudrais encourager la personne qui est en train, peut-être, qui est déjà rentrée dans le mariage et puis qui découvre son identité au fur et à mesure, à ne pas prendre l'autre comme un ennemi à son développement, parce qu'en fait, on s'est rencontrés et puis j'étais comme ça. C'est ça, c'est comme j'ai dit, je suis comme ça.
Oui.
C'est ça que je veux. Oui, moi, je veux avoir des enfants et je veux rester à la maison. Puis finalement, je me rends compte que j'ai pas envie de rester à la maison, que je m'épanouis pas, et je me rends compte que j'ai pas envie de renoncer à ma carrière. Je veux continuer. Et puis on peut avoir un vis-à-vis qui est, mais je comprends pas. C'était pas ça qui était prévu. Ah oui, mais tu me comprends pas, tu me soutiens pas, c'est de se dire on s'était pas mis d'accord sur ça au début et oui je suis en cheminement mais l'autre personne est du coup aussi en cheminement pour m'accompagner, c'est de se donner de la grâce des deux côtés quand on découvre son identité quelquefois un petit peu plus tard.
Exactement, parce qu'on est toujours en construction de toute manière dans la vie, donc on apprend à tout moment le vrai travail, comment lorsqu'on reconnaît que je dois travailler sur tel point, je dois faire des efforts. Et là, on a gagné, en fait. Le fait de reconnaître qu'il me manque ci, il me manque ça. Et ensuite, que l'autre aussi soit compatissant, patient, qui dit, OK, on va y arriver, chérie. On va travailler ensemble, parce qu'on a un bout de chemin à faire ensemble, jusqu'à ce que Jésus revienne, n'est-ce pas?
Absolument.
Voilà, on est là sur Terre. Et du coup, OK, ensemble, on va y arriver. Et là, je pense que ça va réconforter l'autre, voilà. Parce que souvent, tout ce que je vous dis, là, je ne connaissais pas avant. Dieu m'a fait grâce, mais j'ai beaucoup appris.
On apprend,
voilà. Donc, il peut arriver qu'on n'ait pas bien commencé, mais on va quand même apprendre, on va avancer, Dieu nous fera grâce.
Amen, amen. Que de sagesse sur ce plateau, mesdames. Eh bien, je vous donne rendez-vous, moi, demain, puisque demain, Pasteur Maud, vous serez encore avec nous, on est contents. Comment entendre Dieu au milieu de la tempête? C'est la rubrique Conseil du coach que vous allez faire et ce sera le thème de notre émission de demain. Et je vous laisse avec une citation d'Annabelle Sourdris. Si tu fais une tondeuse à gazon, ne te prends pas Pour une voiture.
Ah
non, non, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.